rencontrer Maurice et son parcours impressionnant. Billets en vente au théâtreperiscope.qc.ca ou au 418-529-2193.
On y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah,
la radio que tu mérites depuis 1997.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Droit de parole qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, on reçoit Nantia Linteau ainsi que Mélaëlle Sicotte qui sont les coordonnatrices chez Pro Bono de l'Université Laval ainsi que Cynthia Brière qui est avocate à l'aide juridique. Alors, je vous laisse entre bonnes mains et je vous souhaite un bon épisode.
Bonjour, je m'appelle Nancy Linteau. Je suis étudiante en deuxième année de droit à l'Université Laval. Éventuellement, lorsque je serai avocate, j'aimerais bien exercer en droit criminel ou en droit familial. En ce moment, je suis coordonnatrice EPBC, pro bono, et j'espère faire une différence dans la vie des gens en favorisant un meilleur accès à la justice, en fournissant de l'information juridique et en sensibilisant les citoyens et citoyennes gratuitement par le biais de nos bénévoles. Je vais céder maintenant la parole à ma collègue Mélaëlle.
Pour ma part, je suis également étudiante en deuxième année au baccalauréat en droit à l'Université Laval. C'est également ma deuxième année consécutive d'implication auprès de PBC. L'année dernière, j'ai eu la chance de rédiger un guide juridique pour une maison en violence conjugale. Puis cette année, je répète l'expérience d'une toute autre façon à titre de coordonnatrice de programme. Je suis vraiment fière d'avoir ce poste qui nous permet d'avoir un contact direct avec les besoins des organismes, donc les besoins des communautés en général. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. Également, là, j'ai une technique en droit. Donc, dans ma pratique, j'ai pu constater les besoins de vulgarisation de l'information juridique, mais aussi les problématiques rencontrées par la représentation, la non-représentation, pardon, par avocat. Donc, on pourra en discuter un peu plus tard. Autrement, pour présenter brièvement ce qu'est EPBC, c'est un organisme national au Canada, donc plusieurs sections différentes dans les différentes facultés de droit, dont l'Université Laval. On souhaite vraiment favoriser l'accès à la justice et la défense collective des droits. Cette année, à l'Université Laval, on a 17 projets dont nous sommes très fiers, autant des projets de recherche et de rédaction pour vulgariser de l'information juridique que des projets d'éducation juridique ou des services à la clientèle. Donc, nos projets comptent des étudiants, étudiantes et juristes superviseurs qui sont tous bénévoles auprès d'organismes partenaires. Autrement, on a notre comité exécutif qui exerce différentes fonctions pendant l'année. Notamment, on a plusieurs conférences sur différents sujets qui sont pour favoriser l'accessibilité à la justice puis justement donner de l'information sur certains sujets. Voilà, je vais laisser la parole à Maître Brière pour se présenter également.
Bonjour les filles, merci pour l'invitation. Je me présente, Cynthia Brière, je suis avocate au bureau d'aide juridique de Lévis. Ça fait 10 ans maintenant que je pratique. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage à l'aide juridique section jeunesse. Après un court passage en pratique privée, environ un peu plus d'une année, j'ai pu retrouver mes amours à l'aide juridique avec un poste permanent. Donc, je travaille au bureau de Lévis.
Super. Dans le fond, aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Donc, le premier sera la représentation seule devant les tribunaux. Et la deuxième, c'est vraiment sur l'accès à la justice. Donc, je vais céder la parole à Mélaëlle.
Oui, donc, tout d'abord, on a eu certaines questions d'étudiants, d'étudiantes reliées à, justement, la non-représentation par avocat, pardon, encore. Donc, est-ce que vous avez constaté dans votre expérience professionnelle ou plus théorique, des risques liés à la représentation seule devant les tribunaux?
En fait, je dirais chacun son métier. C'est un peu ça quand je dis aux gens, quand j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me demandent, mettons, moi je pratique principalement en matière familiale, je demande est-ce que mon ex va être obligé de se prendre un avocat. Il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est évident. Après, ça dépend si c'est un dossier qu'on sait qui va se régler facilement parce que les gens sont déjà entendus en médiation puis ils veulent seulement entériner leur entente de médiation. Là, il n'y a pas de risque parce que les gens ont déjà été chercher leur conseil juridique. Par contre, quand c'est des dossiers plus contestés, je dirais oui, il y a certains dangers à ne pas être représentés. Si vous faites vos études en droit, comme je vous ai fait, vous faites un barreau, c'est pas juste pour aller chercher un diplôme, c'est aussi pour aller chercher les connaissances, les expériences. Quand on arrive dans des sujets plus pointus, quand on arrive dans des dossiers d'enrichissement injustifié, au niveau de la preuve, au niveau des objections, au niveau de faire un formulaire de pension alimentaire, à titre d'exemple, je pense à prendre des connaissances précises. Et un avocat va pouvoir aussi guider la personne. Il y a certains sujets de droit qui sont plus émotionnels, vous comprendrez, en matière de protection de la jeunesse, en matière familiale, où des fois les gens vont être trop envahis par les émotions et n'auront pas le recul que l'avocat va pouvoir leur dire « ça, ça fait du sens, ça, ça fait pas de sens au niveau des demandes ». Donc, on peut mieux guider des personnes. Et quand on a des personnes qui se représentent seules, des fois, on va avoir des demandes farfelues ou des dossiers qui vont s'étirer dans le temps, qui pourraient se régler beaucoup plus rapidement si la personne était représentée parce que les demandes font plus ou moins de sens.
Donc, c'est ça exactement. On peut constater qu'il y a vraiment une nécessité de certaines connaissances quant à l'état du droit, mais aussi que parfois, ça va allonger la procédure, puis même peut-être des fois nécessiter l'intervention d'un juge.
C'est sûr que les juges vont intervenir un peu plus en salle de cours lors du procès, là. Mais tout ce qui est, mettons, au niveau des formulaires, mettre un dossier en état, là, ce qui arrive, c'est que ça tombe, du coup, sur l'avocat qui est présent au dossier. Des fois, la magistrature va demander, pouvez-vous aider monsieur à remplir certains documents ou à lui fournir certains documents vierges? On le fait parce qu'on veut faire avancer le dossier, mais à rigueur, en étant l'aide juridique, ma cliente ou mon client n'a pas payé les frais de ça, mais quand j'étais en pratique privée, puis il fallait que je fournisse des documents ou que j'aide la personne, aider entre guillemets, là, on se comprend, ou lui expliquer le processus pour fixer des dossiers, c'est du temps que je me retrouve à facturer à ma cliente. Là. Fait que là, des fois, c'est là que c'est un petit peu plus embêtant, puis ça nous passe dans des situations un peu plus malaisantes.
Je comprends tout à fait. Comment vous pensez qu'on pourrait assurer la participation pleine et entière d'une personne qui se représente seule quant à notamment la compréhension de la procédure?
Je sais que le Barreau de Québec avait commencé aussi un petit guide justement pour les gens qui se représentent seuls. Ça serait opportun, si tu fais le choix de te représenter seule, au moins minimalement d'aller faire une consultation. C'est d'obliger peut-être la personne, d'une certaine façon, vous les représentez seule, parfait, mais au moins d'aller chercher un minimum d'informations juridiques pour éviter des débats qui n'aurait peut-être pas lieu si la personne avait eu un petit conseil juridique sur la situation parce que sa demande ou ne font pas de sens ou ne sont pas pertinentes du tout au sujet ou veut amener des témoins ou de clarifier. C'est sûr que quand on va en gestion puis que j'avais jamais un dossier, la personne se représentait seule. Quand c'était le temps, mettons, dans notre formulaire de gestion d'indiquer le temps de plaidoirie qu'on voulait, cette personne avait indiqué qu'elle comptait plaider pendant 1h30. Je lâche un petit rire dans la salle de cours, là. Parce que plaider 1h30, même moi, j'ai jamais plaidé 1h30 un dossier, là. Et je trouve ça particulier que qu'une personne qui n'est pas juriste soit en mesure de plaider du droit. Parce que j'ai bien précisé, monsieur, vous comptez plaider du droit pendant 1h30. Oui, oui, j'ai un cousin qui est avocat. Parfait. Je vous confirme que la journée du procès, j'ai parti mon chrono quand c'est le temps de plaidoirie, là. Ça a duré, je suis même pas sûre que ça a duré une minute, là. Mais on n'avait pas le choix de réserver du temps quand même, de prendre du coup 2-3 jours d'audition, parce que monsieur avait mis des témoins, beaucoup de témoins qui finalement n'étaient pas pertinents, mais avait mis une preuve plus importante que ce qui était nécessaire puis qui n'était pas pertinente non plus. Mais c'était ça. On est maître de notre preuve comme avocat, mais monsieur se représente seul, il est également maître de sa preuve. Fait qu'on a essayé de couper un peu dans le temps, mais on était quand même pris avec cette cliente-là, avec un dossier qui était beaucoup plus long, qui aurait pu se régler. Dans mon livre à moi, en bas de 3 heures, ce dossier-là a été réglé, puis on avait eu 2 jours de procès.
Ouf! Ouais. Encore là, on voit que la procédure peut facilement s'étirer à long terme. Donc, est-ce que vous pensez également qu'il y a des questions de droit ou le vocabulaire juridique aussi qui peut être un enjeu pour ces personnes-là?
Oui, puis souvent, elles vont le nommer à la cour en disant « Moi, je suis pas avocat, là, je ne comprends pas tous vos termes, puis je suis pas sûre d'avoir compris ce qui s'est dit ou j'ai peut-être pas les bons mots. » Fait qu'on voit les gens sont un peu démunis dans le processus, là, serait-ce que de comprendre l'interrogatoire, contre-interrogatoire, quand on est en audition, les objections, les documents qu'il faut déposer au dossier de la cour, comment on le dépose. C'est des fois, j'ai des gens qui arrivent, qui, le matin même, ils arrivent avec une caisse de documents. Mais les règles de procédure s'appliquent pour tout le monde. Puis ça, des fois, ils ont tendance à penser, parce qu'ils se représentent seuls, qu'ils peuvent avoir des passe-droits, là. En général, la magistrature, là, maintient que le code de procédure s'applique pour tous, là. Donc, c'est pas parce que tu fais le choix de pas être représenté que le code de procédure s'applique pas à toi. Le code de procédure, vous le savez, il est quand même volumineux, là. Il y a beaucoup de règles. Fait que c'est comme si on demandait à quelqu'un on lançait dans une arena ou dans un jeu sans connaître les règles du jeu. Fait que c'est sûr que, il y a des imbroglios, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là.
Parce qu'on parlait plutôt de justement avoir une consultation gratuite pour se préparer un minimum, mais tous ces enjeux-là vont quand même venir. Il faut quand même avoir une bonne connaissance du processus judiciaire, comme vous le mentionnez, des délais, de la façon de déposer, de notifier. Ces choses-là sont importantes pour le bon déroulement des dossiers. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des ressources que ces personnes-là peuvent aller chercher? C'est sûr qu'il faut avoir l'intention là, de vouloir aller les chercher, ces ressources-là, mais...
Mais Quand je parlais de consultation tantôt, je parlais pas forcément de consultation gratuite, mais au moins d'aller chercher la formation juridique. Il y a des gens qui ne veulent pas être représentés. Il y a des personnalités dans des dossiers, certains, des fois dans certains dossiers de violence conjugale ou quoi que ce soit, qu'on a des personnalités, on va dire, plus narcissiques, qui ne souhaitent pas être représentées parce qu'ils sont sûrs d'avoir la science infuse puis qu'ils savent comment ça fonctionne. Fait que c'est ces gens-là, on peut pas les chercher. Après, il y a d'autres gens qui seront pas représentés, pas parce qu'ils ne veulent pas être représentés, mais après, là, on arrive avec le deuxième volet du sujet, c'est au niveau de l'accessibilité à la justice. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour se payer un avocat. Fait qu'on a un peu... Puis il y en a qu'on voit pas, qui reçoivent les procédures puis qui donnent pas signe de vie. Fait qu'ils sont pas représentés de facto parce qu'ils ont jamais répondu à la procédure. Fait que je dirais, il y a ces trois éléments-là. Puis ceux qui demandent le plus d'énergie, puis c'est une minorité, heureusement, parce que sinon la pratique serait lourde, là, mais c'est ceux qui se représentent seuls parce qu'ils pensent qu'ils savent tout puis qu'ils sont capables de mieux faire que s'ils étaient représentés. Mais que c'est pas forcément pour une question financière.
Puis les personnes, par exemple, qui ont le souhait de vouloir aller chercher des ressources, à votre connaissance, quelles sont les ressources accessibles en ce moment?
Les ressources qu'il y a, bon, sur Internet, il faut en prendre puis en laisser. de s'assurer que c'est fiable. Mettons, Éducalois, c'est quelque chose, c'est un bon site qui vulgarise bien selon nos questions. Il y a les centres de justice de proximité également qui sont disponibles. Sauf que si la personne est admissible à l'aide juridique, peut venir nous consulter également. Il y a certains organismes qui ont des partenariats avec des avocats qui offrent certaines consultations, mais c'est quand même assez limité, là.
OK. On va tout de suite passer, parce qu'on en a déjà abordé un petit peu, le sujet de l'accès à la justice. Selon vous, quels sont les enjeux principaux de l'accès à la justice qui sont les plus souvent rencontrés?
Mais, je le mentionnais, des fois, des gens ne peuvent pas être représentés parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se payer un avocat. Tu sais, on se fait tous un budget, puis des fois, on va se faire un petit coussin pour les imprévus, pour les vacances, pour différents projets. Je connais personne qui s'est fait un petit fonds en disant « Ah, si un jour je dois aller à la cour, je vais avoir mon petit fonds juridique. » Ça, c'est la première chose. Même les assurances juridiques, là, souvent, les gens les prennent pas parce qu'ils n'en voient pas la pertinence. C'est sûr que quand on a une problématique juridique, on réalise que c'est important. Puis il y a des choses, des fois, qu'on dit « Ça ne nous arrivera pas. Je ne pense pas avoir un jour besoin d'un avocat. » Donc, il y a cette difficulté-là. La ressource financière, c'est le gros du problème. Mais parallèlement à ça, il y a aussi une question d'éducation juridique. Je pense que si les gens étaient plus informés par rapport à leurs droits, qu'ils connaissaient mieux les ressources, prévenir avant de guérir, ben là, je pense qu'il y aurait peut-être une plus grande accessibilité à la justice parce que ça éviterait qu'on se retrouve dans une situation où on est obligé d'avoir recours aux tribunaux. Si on prenait le temps de lire un contrat comme il faut, c'est aussi niaiseux que de lire un contrat comme il faut. Combien de personnes vont dire, tu vas chez le concessionnaire ou peu importe, signe là, puis on prend pas le temps de lire le contrat. De savoir, au niveau du patrimoine familial, de savoir que quand on se marie, on a un régime légal, puis on crée un patrimoine familial. Bien souvent, là, je leur apprends quand ils sont dans mon bureau, puis qu'on est rendu à l'étape du divorce, puis ça fait déjà 10 ans qu'ils sont mariés. Il y a toute cette information-là, que si les jeunes sont au courant de ça implique quoi, puis je le vois dans les différentes consultations, ou des fois je donne des ateliers dans des écoles, puis je fais des petits quiz avec les plus jeunes, puis ils sont pas au courant de leurs droits. Il y a certaines choses qu'ils savent, mais au niveau du travail, est-ce que ton patron peut t'obliger à ce que tu achètes ton uniforme? Et souvent, les jeunes sont comme « Non, ils n'ont pas le droit. » Puis là, je les challenge. Je dis « OK, mais mettons que c'est un uniforme que je fais sur mesure pour toi. Là. Je ne peux pas le redonner à un autre employé. Il est sur mesure pour toi. Là, je vois les mains sont déjà moins sûres. Ah, ben peut-être. Si c'est sur mesure pour moi, peut-être que je n'ai pas le choix de le payer. » On voit qu'il y a quand même un rapport un peu, je dirais, de force quand tu connais tes droits versus quand tu ne les connais pas.
Ce serait quoi les moyens, justement, pour les connaître davantage? Parce que là, vous parlez des présentations dans les écoles, je trouve ça super, parce qu'on peut déjà aller cibler les jeunes sur certains sujets qui sont peut-être pas abordés à la maison. Mais ce serait quoi les autres moyens? Est-ce qu'ils devraient avoir peut-être des cours à l'école qu'on mentionne certains droits? Parce qu'il y en a plusieurs aussi, là. Donc, comment cibler ceux qui sont sensiblement peut-être plus important ou plus souvent...
Tout est du droit, hein, si on regarde.
Oui, c'est ça.
Il y a du droit partout. Mais je pense que s'il y avait effectivement un cours sur nos droits, nos droits et obligations. Hein, si on parle beaucoup de droits, là, mais moi, l'atelier que je donne dans les jeunes aux écoles secondaires, c'est vos droits, oui, les jeunes, mais aussi vos obligations, parce qu'il y a toujours un pendant qui va avec. Là. Donc, que les jeunes savent c'est quoi leurs droits, savent c'est quoi leurs obligations, mais après savent aussi où aller chercher les ressources. Puis, au moins allumer une petite lumière, là. Bon, mais si un jour, j'ai une problématique juridique, je sais que je peux aller chercher des ressources à tel endroit pour avoir réponse à mes questions, puis développer certains réflexes. Comme j'ai aussi simple que de dire, avant de signer quelque chose, on le lit. Mm-hmm. Même si on sent que l'autre personne, elle, comme c'est une formalité, voyant... Moi, je sais qu'il me trouve un peu plate quand je vais à des endroits parce que je prends le temps de lire les documents, puis je regarde. Puis c'est au même titre que quand on fait des activités, là, on dit, s'il y a un préjudice corporel, vous renoncez à poursuivre. Il faut bien signer ton document, mais il ne vaudra pas grand-chose légalement parlant. Mais c'est toutes des petites affaires que... Mais si la personne qui n'est pas au courant de ça, puis qu'elle signe, elle dit, je ne peux pas poursuivre, j'ai signé une renonciation. Donc, il ne fera pas forcément valoir un droit parce que... C'est pas parce qu'on signe quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui est écrit sur un papier que c'est forcément valide juridiquement parlant. Fait que juste de développer certains réflexes, que ce soit à l'école ou par d'autres moyens d'aller au niveau de la population, mais de renseigner. Comme je dis, Éducalois fait beaucoup aussi d'ateliers, des petits séminaires maintenant, même sur les réseaux sociaux. Donc, je pense pour aller chercher un autre type de clientèle. Fait que je pense que c'est une façon d'informer les gens juridiquement parlant ou au moins... Ce ne sera pas un cours de droit au complet, mais au moins de développer certains réflexes juridiques.
Oui. Puis tantôt, on parlait aussi là, des personnes qui ont peut-être moins les moyens financiers. Est-ce que vous pensez que celles qui ont les moyens financiers pourraient ou sont plus avantagées dans leur dossier? Est-ce que ça leur permet différentes façons d'avancer dans le dossier qui peut-être... Pour d'autres
personnes. Certains types de dossiers, sûr que je ne fais pas tous les types de droits, là, mm-hmm. Peut-être des types de droits où ça s'applique plus qu'à d'autres, mais dans des dossiers où ça prend des expertises, oui, je pense que là, pas pour l'avocat en tant que tel, mais il y a des fois, on n'a pas les ressources financières pour certaines expertises. Parce que les experts, on tombe dans les 5-6 chiffres, puis là, le coût, faut aussi toujours, comme mettons, quand on est exemple en responsabilité civile, regarder ce que... L'enjeu en vaut la peine. Si finalement, je regarde que mes expertises puis mes frais d'avocat vont dépasser l'enjeu financier que je réclame, puis comme je dis tout le temps, on peut demander bien des choses à la Cour parce qu'on demande quelque chose qu'on va forcément recevoir ce qu'on demande. Mm-hmm. Fait qu'il y a aussi cet enjeu-là. Des fois, j'ai des dossiers où je vois passer que oui, juridiquement parlant, il y a quelque chose à faire, mais l'autre partie ne veut pas collaborer ou il n'y a pas d'entente possible. Puis que finalement, si on fait un procès, bien, la facture va être équivalente à ce qu'on va peut-être recevoir. Fait que là, c'est d'aviser le client puis de voir est-ce que vous voulez quand même aller de l'avant avec ça. Des fois, il y en a qui sont oui, parce que là, question de principe, c'est je veux maintenir ma position. Mais tu sais, est-ce que financièrement parlant, le justiciable est gagnant? Pas toujours forcément. Mais oui, dans certains dossiers, le fait d'avoir des moyens financiers peut permettre d'avoir un peu plus de ressources, notamment, comme je disais, entre autres pour des expertises qui est plus difficile d'avoir, là, des fois au public ou que les délais sont plus longs. Là.
Puis est-ce que l'enjeu financier, en général, peut justement ne pas permettre l'ensemble des ressources? Je ne sais peut-être pas comment formuler le tout exactement, mais est-ce que l'argent en tant que tel affecte directement les ressources quant à l'accessibilité à la justice? Parce que je pense qu'on peut constater que c'en est un parfois. Vous, directement dans votre pratique, est-ce que c'est quelque chose qui est criant?
Ben, oui, c'est sûr que moi, avec ma clientèle, est admissible à être juridique. Des fois, sur un volet gratuit, sur un volet contributif, mais quand j'étais en pratique privée, c'est sûr, dans les premières questions que les clients me posaient, ça va me coûter combien? Mm. Puis je disais, c'est un peu la question à 1 million. Je ne sais pas combien ça va vous coûter. Mm. Parce que est-ce que c'est un dossier? Il y a des dossiers, on envoie la procédure, puis on règle tout de suite par le biais d'une convention, puis en quelques heures, le dossier est réglé de A à Z. Il y a d'autres dossiers qui s'étirent sur un an et demi. Fait que c'est sûr que la facture monte beaucoup plus rapidement là, selon le taux horaire de l'avocat. Moi, ce que je dis à mes clients quand ils ne sont pas admissibles à être juridiques, c'est magasiner votre avocat aussi. T'sais, tous les avocats ne sont pas au même tarif. Puis ça prend aussi une relation de confiance avec son avocat. On travaille... l'image que je donne souvent, là, on est deux dans la même chaloupe, il faut qu'on rame dans le même sens si on veut avancer. Fait, c'est de regarder ça. Mais effectivement, des fois, je le vois que les gens, s'ils doivent payer, s'ils devaient me payer, payer la facture, bien... faut ajuster dans le budget à quelque part, ou c'est les parents souvent qui vont aider, ou marge de crédit. Fait que c'est malheureux, mais c'est des fois c'est comme ça pour faire valoir ses droits, surtout quand on est dans des dossiers en matière familiale. C'est pas, on a de cette façon pas le choix si on veut, mettons, la garde des enfants ou obtenir des décisions au niveau de l'autorité parentale ou pension alimentaire. Et c'est pas une question de ben, je prends-tu le recours, je prends pas le recours. On a pas le choix de faire valoir ses droits à ce moment-là. Fait que, oui, pour certaines personnes, c'est plus difficile financièrement parce qu'ils sont pas admissibles à être juridiques. Ils font comme trop riches, puis je le mets entre guillemets des fois, là, parce que c'est pas le cas, là. Mais c'est que leurs revenus font en sorte qu'ils sont pas admissibles à être juridiques, qu'ils doivent se prendre un avocat. Et ça joue dans l'équation aussi, dans le règlement du dossier. Des fois, il y a certains points qu'ils vont laisser tomber parce que ça leur coûterait plus cher que ce qu'ils peuvent aller chercher au niveau...
Donc, principalement, les points qu'on a soulevés, là, qui pourraient être les enjeux déjà liés à l'accès à la justice qu'on a mentionné plus tôt, ce serait notamment là, les moyens de financer de certains, mais également d'aller chercher l'information, l'accessibilité à l'information, puis les ressources pour certaines personnes aussi. Je ne sais pas si vous constatez d'autres enjeux qui sont liés à l'accès à la justice dans votre profession.
Bien, l'accès à la justice, c'est sûr que plus on va être efficace, puis la pandémie aura eu des effets négatifs, mais aura eu quand même des effets positifs. Dans le sens où nous, nos bureaux sont sur la rive sud. Maintenant, en matière familiale, beaucoup de choses se font de manière virtuelle. Fait que ça évite aux clients de devoir se déplacer. Puis quand je parle de déplacer, même pour certains, les procès contestés au fond, on les fait encore physiquement au palais de justice, mais des fois, des ordonnances de sauvegarde ou des par défaut se font à mon bureau. Où la personne aussi ne peut être évitée de manquer du travail, peut se connecter en Teams dans un local confidentiel de son bureau, n'est pas obligée de manquer une journée de travail, n'est pas obligée de faire garder les... Il n'y a pas juste d'être physiquement au palais, il y a aussi tout ce que ça entoure, des fois les frais d'essence, les frais de garderie pour enfants, etc. Parce que quand on rentre au palais, on ne sait pas toujours à quelle heure on va sortir. Là. Puis ma clientèle, tout ça, la rive sud, puis le territoire est quand même assez grand, fait que des fois avec le trafic, là, pour revenir chercher la petite famille, ça peut être un peu plus compliqué. Fait que ça a amené quand même du positif, que ça rend quand même la chose plus accessible. Ça permet aux gens de se connecter, d'éviter certains frais. Fait que ça, je trouve que c'est un côté positif. Il y a encore place à amélioration, mais ça amène... On est déjà vers la voie, puis c'est ce que la magistrature aussi, c'est la volonté aussi de rendre le tout plus accessible. C'est tout le monde doit mettre la main à la pâte, tous les acteurs. Là. C'est aussi bien au niveau greffe, de la magistrature, des avocats. Donc, il y a... Et puis ça prend une volonté aussi, je dirais, de la société aussi d'informer son monde puis de rendre la justice plus accessible. Mais ça prend une volonté. Il y a aussi une volonté politique, mais là, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais ça joue aussi dans l'équation. Là.
Oui. D'où l'importance vraiment que tous les acteurs, comme vous le mentionnez, là, s'assurent du bon déroulement des dossiers puis qu'ils mettent de leur volonté, comme vous le mentionnez.
On irait maintenant en pause. On vous revient sous peu.
Je ne suis jamais vraiment partie. J'arrivais dans l'autre sens. Je ne fus jamais vraiment ici.
Yeah. Y'a une couple de motherfuckers on the side. On reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
Les Remparts de Québec reçoivent le Drakkar de Baie-Comeau ce dimanche 13 novembre à 15h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 14h45 pour l'avant-match. Remparts Drakkar, ce dimanche 15h sur les ondes de Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Écoute!
On est de retour à Droit de parole. Ici Nancy Alinto et...
Mélaëlle Scott, ainsi que Maître Brière, notre invité.
Donc, nous allons maintenant passer au volet accessibilité à la justice. Donc, Maître Brière, selon vous, quelles sont les raisons et les éléments qui contribuent au manque d'accès à la justice qu'on vit présentement?
Au niveau du manque d'accès à la justice, il y a aussi la notion de pouvoir avoir accès facilement à un avocat.
Oui.
Donc ça je pense que ça rentre en ligne de compte. Comme on disait un peu plus tard avec votre collègue, c'est sûr que la question d'être informé aide également. Mais je pense que pouvoir avoir accès, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'avocat, mais des fois, c'est la question plus financière là, qui rentre en ligne de compte. Mais ça, je dirais que c'est un des éléments là, qui est
qui important. Font en sorte qu'on manque d'accès à la justice, dans le fond.
Mais il y a certains dossiers que financièrement parlant, sont plus importants. Mettons, je veux plus dans le dossier au niveau de responsabilité civile. Je dis même moi, demain matin, j'ai un vice caché sur ma maison, puis il faudrait que je commence à poursuivre, puis en garantie, en arrière-garantie, arrière-arrière-garantie, puis ça commence à faire beaucoup de frais, beaucoup d'avocats. Fait que c'est des dossiers que, financièrement parlant, demandent une bonne enveloppe budgétaire. Fait que là, c'est plus difficile des fois de dire ben si j'ai pas les ressources financières pour m'embarquer là-dedans, même si juridiquement parlant, si on faisait une théorie de la cause, là, on aurait okay. À une question d'examen, là, il y a un recours. Maintenant, la personne n'a peut-être pas. Puis des fois, c'est pas juste une question de financière, des fois, c'est aussi une question d'énergie. Là.
Parce que c'est sûr qu'il y a certaines procédures qui sont vraiment plus longues, puis on s'embarque là-dedans aussi émotivement. J'imagine que des fois, c'est pas toujours
dossier,
évident.
Une cliente, un dossier d'IVAC, là, puis là, c'est de. D'IVAC, donc pour ceux qui sont moins familiers, de dénonciation de victimes d'actes criminels. Fait que madame a déjà vécu beaucoup d'éléments anxiogènes, victimes d'actes criminels, là, de faire des démarches pour essayer de se faire reconnaître certaines indemnités. Fait que c'est de replonger là-dedans puis d'avoir des difficultés aussi à tourner la page. Fait que s'il m'arrive aussi des fois que j'ai des clients qui me disent ben, c'est que moi, je suis prête à aller au front puis de faire valoir leurs droits, mais qu'eux n'ont pas la santé, je dirais, émotive ou psychologique là, pour aller de l'avant aussi. Là.
Parce qu'aussi, les gens qui vont devant un procès, ben ils sont confrontés aussi à la personne contre qui ils vont. Là. Fait que
effectivement,
souvent,
ça peut être très anxiogène également comme situation. Fait que des fois, il y en a qui préfèrent un peu acheter la paix, la façon de parler, plutôt que d'aller de l'avant dans des procédures.
Là. Puis oui, justement, quant à l'accompagnement pour certaines personnes qui peuvent avoir plus des difficultés au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Est-ce que vous avez des formations quant à ça?
Bien, les formations, en fait, toutes les formations qu'on fait comme avocat, c'est nous qui les choisissons. On n'a pas de formation imposée. On a des formations, on a 3 heures de déontologie à faire, mais je veux dire, je peux choisir la formation déontologique que je veux dans la banque qui m'est offerte par le barreau du Québec. Fait que les formations qu'on fait, c'est vraiment à discrétion de tous. De ce temps-ci, il y a beaucoup de formations en lien avec la violence conjugale, donc qui est reconnue au niveau de la loi sur le divorce, puis que je pense qu'on met beaucoup plus d'emphase dessus. Fait qu'il y a beaucoup de formations qui sont offertes actuellement. Personnellement, je les suis tous parce que c'est beaucoup ma clientèle, de voir un petit peu. Puis on travaille aussi en collaboration. Les formations qu'on a actuellement, c'est multidisciplinaire. Là. Fait que on faisait des forums avec aussi bien des agents de la SQ, des intervenantes sociales, des personnes qui travaillent dans des ressources pour femmes. Fait que je trouve que on y a toute une volonté de tout le monde de travailler en collaboration pour améliorer. Mais quand c'est des personnes victimes de violences conjugales, je vais les référer, moi, à la ressource qui est la plus proche de chez nous, à Lévis, pour les aider, puis qu'ils soient accompagnés. Moi, je leur dis tout le temps, je suis présente, moi, je suis avec vous dans la salle de cours, je vous laisse pas toute seule, je suis là. Mais après, des fois, il y a un suivi social qui serait peut-être pertinent pour la personne, mais là, c'est plus dans mon champ d'expertise, là, c'est plus dans mes compétences. Moi, je peux référer la personne, mais après, c'est libre à elle d'aller chercher l'aide. Mais si c'est pas une victime de violence conjugale ou quelqu'un qui peut être accompagné par une intervenante au niveau de la CAVAC, ben c'est de voir est-ce que cette personne a une intervenante sociale. Mais encore une fois, on parle d'accessibilité à la justice, mais il y a aussi une accessibilité, je dirais, à large de bien des services. Si la personne n'est pas en mesure ou qu'elle est sur une liste d'attente parce qu'elle n'est pas prioritaire, bien, Moi, je dis, ben, c'est venu accompagné peut-être de votre conjoint, papa, maman, c'est peu importe l'âge qu'on a, là. Oui. Papa et maman, des fois, ça
d'avoir
peut toujours.
D'avoir un support, là.
D'avoir un support qui sera pas dans la salle de cours, là, mais au moins d'être présent pour les attendre, pour l'heure du dîner, pour les pauses, c'est pour un peu permettre de ventiler puis d'aider la personne aussi à gérer son stress, là.
Parce que justement, là, quand ces personnes-là ont plein de suivis, autant sociaux que juridiques, ça peut en faire beaucoup comme charge émotionnelle. Puis vous, je considère que c'est quand même important là, que vous ayez un minimum d'informations ou de formation quelconque là, pour justement soutenir ces personnes-là d'un minimum quand vous faites face à cette clientèle-là.
On les offre, mettons, aux avocats. Je me présente de l'Association des familialistes. Fait que, on en offre beaucoup, mettons, de violence conjugale au niveau avec les experts de la cour, pour qu'on, mettons, travailler aussi avec une clientèle avec une problématique de santé mentale. Fait que, on offre, nous, ce genre de formation-là à nos membres. Mais comme je dis, après, c'est libre à chaque personne de les suivre ou pas. Mais je voudrais qu'à Québec, là, on a quand même... En tout cas, au niveau du droit familial, comme je dis, mes collègues que je côtoie régulièrement, on a quand même des gens là, qui sont sensibles à ça puis qui font les formations à cet effet-là.
Super. Et puis, un peu sur le même sujet, quelles sont les personnes les plus touchées, selon vous, par le manque d'accès à la justice?
Au niveau du manque d'accès à la justice, touchées, c'est des personnes plus vulnérables. Fait qui peuvent avoir accès à la justice, mais des fois, leur vulnérabilité fait en sorte qu'ils ne vont pas chercher ces ressources-là.
Pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers. Là.
Qui n'a pas les moyens financiers ou qui serait admissible à l'aide juridique, mais pour des raisons de problématiques de santé mentale, exemple, on le constate de plus en plus, ne va pas aller chercher les ressources ou a plus de difficultés à reconnaître certaines difficultés puis n'ose pas aller de l'avant dans le processus judiciaire.
Puis j'imagine aussi que dans le domaine que vous êtes actuellement, vous êtes en droit de la famille, est-ce que vous voyez des situations justement que vous le sentez, là, qu'il y a un manque d'accès à la justice à ce niveau-là ou justement parce que vous êtes à l'aide juridique, ça fait en sorte que vous le ressentez moins puisque vous êtes là aussi pour pallier un peu ce manque d'accès-là?
Étant permanente à l'aide juridique, je le ressens moins. Puis il y a bien des fois des clientes, je vais leur nommer, bien, c'est une chance que vous êtes admissible à l'aide juridique parce que si vous n'aviez pas été admissible à l'aide juridique, la facture aurait été
énorme.
Puis comme je dis des fois, tout simplement parce que l'autre partie ne collabore pas, son avocat cesse d'occuper, puis là, on est obligé de renvoyer une mise en demeure contre un nouveau procureur, c'est-à-dire les procédures. La personne ne met pas son dossier en état, on est obligé d'aller en gestion pour obtenir les documents. Et c'est tous des actes juridiques qu'on est obligé de faire pour faire avancer le dossier. Puis dans ce temps-là, je suis contente d'être à l'aide juridique permanente, puis d'avoir que mes clients ont déjà beaucoup de stress. Quand on va voir un avocat, en général, c'est parce qu'on a une situation anxiogène où ça va pas super bien. Fait qu'au moins qu'ils n'ont pas ce fardeau-là financier à gérer. Puis écoutez, ça prend un an, ça prendra un an. Tant que vous êtes admissible à l'aide juridique, il n'y a pas de problème, je vais être là pour vous.
Fait que dans le fond, quand on est à l'aide juridique, bien, c'est sûr qu'il y a... La personne économise au final, justement, parce que souvent, les frais vont être couverts. Là. C'est sûr qu'il y a une contribution...
C'est la contribution au maximum, c'est 800
$. C'est 800 $, oui.
Fait que c'est ridicule. Puis de nos jours, là, puis encore une fois, quand je donne des ateliers aux jeunes, je leur dis qu'il n'y a plus grand-chose de gratuit dans la vie. Encore moins dans le contexte économique dans lequel on est actuellement. Puis il reste encore l'aide juridique. L'aide juridique qui est... d'avoir un avocat gratuitement pour l'ensemble de ces procédures. Puis si t'as 3-4 dossiers, t'as comme un avocat pour tes 3-4 dossiers. Bien évidemment, c'est un service qui est couvert, là, on s'entend, là, sous réserve, mais t'as quand même accès à un avocat gratuitement ou sur un volet entre 100 et 800 $ pour l'ensemble de ton dossier. Parce que des fois, les gens sont comme, si tu as l'heure. Non, c'est pour l'ensemble du dossier jusqu'au jugement final.
Okay.
Fait que c'est sûr que... On est quand même une équipe. Le réseau a fêté ses 50 ans cette année de l'aide juridique.
Wow.
On est une équipe rodée, on a un service de recherche. C'est des gens qui sont... Ceux qui viennent à l'aide juridique parce qu'ils sont motivés puis qu'ils ont ça à cœur. Là.
Oui, bien, justement, là, on va vous poser la question parce que je trouve que c'est un bon moment, mais pourquoi vous avez choisi l'aide juridique?
C'est vraiment pour me concentrer sur la problématique. J'étais un peu en pratique privée. Puis la partie que j'aimais le moins, c'est vraiment au niveau de la facturation. Là.
Okay.
Quand j'avais une cliente, là, les seuils ont augmenté. Mais quand j'avais une cliente que je voyais qui était une mère monoparentale, deux enfants, papa payait pas la pension alimentaire, je vois dans le budget que je rentre pas. J'ai pas le choix. Il faut quand même que je facture, que je demande une avance. T'sais, je veux dire, je vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Là. Fait que ça, je trouvais ça plus difficile de J'avais l'impression de rajouter un stress que je ne voulais pas forcément. Mais d'un autre côté, on étudie, on veut travailler puis gagner notre vie également.
Mais ce que vous vouliez, c'est vraiment apporter votre aide à des gens qui en ont besoin.
Aux gens qui ont besoin, une clientèle plus vulnérable, de ne pas être pris avec une barrière, on va dire, financière, de pouvoir y aller. S'il faut mettre 40 heures dans le dossier, on va mettre 40 heures, là. Puis
vous n'allez pas moins travailler pour autant.
Au contraire, là. Non, loin de là. Pouvoir mettre l'énergie là, à la bonne place, puis d'aider des gens dans une situation, là, comme genre, ma pratique est surtout en familiale, j'aurais un bon 60-80% en matière de protection de la jeunesse, en santé mentale, puis en droit administratif. Donc, d'aider des gens dans des situations variées. En fait, l'avantage, c'est qu'on a une équipe variée. On est une grosse équipe, donc il y avait aussi la question de pouvoir se référer facilement à des collègues et d'être sur le terrain comme tous les jours.
Puis ce qui est le fun, j'imagine, aussi dans la pratique, là, justement, vous plaider. Vous êtes en équipe, vous êtes en collaboration avec d'autres personnes. Fait que j'imagine que ça aussi, c'est quelque chose là,
qui amène de l'eau moulant là, dans la motivation, effectivement.
Puis est-ce qu'une quelconque, parce que peut-être, là, ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais vous êtes également là, avocate, superviseur auprès de nos projets pro bono déjà depuis quelques temps. Est-ce que l'implication pro bono a toujours fait partie de votre formation professionnelle ou même à titre d'étudiante, puis c'est quelque chose qui vous a permis de vouloir pousser ça aussi dans votre carrière professionnelle par la suite?
J'ai toujours été une personne très impliquée dans la vie secondaire, collégiale, universitaire. Là. J'ai toujours été beaucoup impliquée. Je pense que redonner un petit peu au suivant, c'est le fun. Puis dans les deux sens, là, c'est aussi agréable pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. Fait que de pouvoir aider, mettons, pour le programme pro bono, des organismes qui sont des organismes voisins là, sur mon territoire, là. Fait que, avec qui je fais affaire régulièrement. Là, je me dis, si les intervenantes, mettons, à Maison Ruelle, ont les informations pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales, savent un petit peu le processus, mais peuvent déjà, avant que la personne ait le temps de rencontrer un avocat, lui dire, écoute, non, panique pas tout de suite, on sait où on va pouvoir te diriger. Ça, on a eu la formation que, comme monsieur te dit, qu'il va te, exemple, parce que t'es une immigrante, qu'il va te retourner au pays parce que tu l'as quitté, ben non, il peut pas faire ça. Là. On a eu la formation que c'était pas quelque chose de faisable. Fait que ça permet aussi d'aider la clientèle tout de suite qu'il y a une urgence, parce que je ne serais pas que de le voir, mais en pratique, les gens vont vous appeler pour des urgences. Après, c'est de voir les vraies urgences, des moins importantes. Mais au moins, quand on donne les outils après à ces organismes-là, ben, on revient à ce qu'on disait un petit peu au départ dans la question d'éducation. Ben, je me dis, quand les intervenants sociaux savent un peu plus comment le processus judiciaire fonctionne, ben, ils peuvent en faire part aux femmes, qui vont en faire part à d'autres femmes. Donc, il y a un petit peu un effet domino. Gérer d'informations juridiques qui se répandent. Donc, je trouve que ça amène un beau retour. Puis c'est le fun de travailler. Moi, j'aime ça travailler avec les jeunes. Là. Fait que d'être avec des étudiantes qui sont motivées puis qui veulent s'impliquer, bien, ça me rappelle mes amours de jeunesse.
Super. Maintenant aussi, on aimerait savoir un peu, selon vous, toujours, quels sont les impacts globaux d'un manque d'accès à la justice sur les personnes concernées, un peu comme ce qu'on disait, là, les personnes plus vulnérables, les personnes qui ont des difficultés en santé mentale et tout, et sur la société en général?
Je pense qu'on a la chance d'être dans une société de droit par rapport à d'autres pays. Donc, quand on dit tantôt nos droits puis nos obligations, mais on sait également c'est quoi nos droits. Fait que de le savoir pour éviter de se ramasser dans des situations qui pourraient être préjudiciables. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Mais oui, on le voit, les impacts. Là. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire valoir ses droits, peut perdre son logement parce que ne savait pas...
Il ne savait pas qu'il y avait un recours.
Fait que des fois, ça peut avoir des impacts... on va dire plus indirect, mais des fois, ça peut avoir vraiment des impacts directs sur sa vie. Ben là, je n'ai pas demandé de pension alimentaire parce que je pensais qu'il y en avait. Ben, mon ex m'a dit que, vu que je gardais les allocations familiales, je gardais toutes les allocations familiales, mais il n'y avait pas de problème, je n'avais pas besoin de demander une pension alimentaire. Mais oui, c'est un droit, puis il y a des choses qui sont d'ordre public. Quand on ne le sait pas, puis que, surtout quand on est dans un rapport de force, je donne beaucoup d'exemples en matière familiale, parce que c'est ma pratique.
Mais oui, c'est bien correct.
Mais on ne le sait pas, puis on peut... accepter certaines choses que juridiquement parlant, quand on prend un alcien dans le bureau, dire maintenant ça, ça.
On
ça
avait un pas. Droit à ce niveau-là, oui. Exemple.
Ou des fois, il y a beaucoup de légendes urbaines en droit.
Ah oui.
Et des fois, de clarifier ça avec les clients, oui, ou au party de Noël, mon oncle Roland qui a dit telle information, mais finalement, ouais, c'est pas parce que lui a vécu son divorce de telle façon que c'est ça actuellement. Là. Donc, au moins de donner la bonne information à la cliente. Et après, ou le ou la cliente peut faire le choix qu'elle souhaite. Là. Mais au moins, elle a eu la bonne information juridique.
C'est ça, parce que c'est des impacts hyper importants là, dans la vie des gens. Là, qui... C'est des décisions à prendre, des choix à faire. Mais quand on n'a pas toute l'information nécessaire...
C'est dur de prendre la bonne décision parce qu'on ne sait même pas souvent vraiment. C'est un peu comme en droit patrimonial, on avait vu... j'ai été étudiante là, avec Maître Briard. Puis dans le fond, on avait vu justement le patrimoine familial, ben ça existe. Mais souvent, les gens qui se marient, ils ne savent même pas qu'ils ont le droit à une certaine partie justement d'un certain patrimoine, qu'il y a des choses qui rentrent là-dedans. Mais... Je veux dire, souvent, les gens, ils se marient puis ils le savent pas.
C'est juste le mariage, on y va, puis on pense à la fête, les centres de table, puis la couleur des robes de demoiselles d'honneur.
Le beau côté rose de tout ça, là.
Effectivement, mais les gens sont pas informés, puis ils l'apprennent plus tard. Puis, je me suis dit, ben non, la maison est à mon nom, fait que t'as droit à rien. Ah, ben... Oui! La maison est à ton nom, mais ça se peut que madame ait droit à quelque chose quand même. Mais encore une fois, si on ne le sait pas, puis qu'on n'a pas l'information, puis que c'est toujours monsieur qui gérait les comptes, puis bien, s'il dit, c'est que ça doit être vrai, c'est là qu'on peut se faire avoir. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là.
Effectivement.
D'où l'importance de bien se renseigner, de vraiment avoir des informations quand on signe ou fait quelque chose quelconque qui a une importance.
Au moins une consultation juridique. Ça minimise un peu l'impact financier pour ceux qui ne sont pas admissibles à être juridiques, mais au moins d'aller chercher une consultation avec un avocat pour voir, bon, ben, voici la problématique. Est-ce que juridiquement parlant,
il y
a quelque chose à faire ou pas? Au moins, après, on sait où on s'en va. S'il n'y a rien à faire, bon, ben, on sait qu'il n'y avait pas de recours, mais s'il y avait un recours, ben, après, on peut prendre une décision plus éclairée, est-ce que je vais de l'avant ou pas de l'avant? Mais au moins, on a cette information-là de base. Là.
Puis, quant au manque là, d'accès à la justice... qui impacte directement sur la société en général, diriez-vous que il y a un impact sur la confiance du système de justice?
Il peut y en avoir un. C'est sûr que ce qui est mis de l'avant par les médias, c'est beaucoup en matière criminelle.
Mm-hmm.
Je ferai jamais les manchettes vraiment en matière familiale ou en matière jeunesse ou un dossier en droit administratif d'aide sociale. Fait que c'est plus ce qui est en matière criminelle qui est mis de l'avant. Puis là, on le voit là, quand il y a des décisions ou des personnes qui sont remises en liberté. On voit sur les réseaux sociaux, des fois, ça s'enflamme. Puis comment ça? Mais il y a aussi une notion juridique. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut faire... faut être un juriste pour être capable de faire l'abstraction. C'est pas pour dire que la personne en tant que telle peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais il y a quand même principes juridiques qui font en sorte que... Fait que des fois, la confiance peut être minée à cet effet-là. Il y a encore, comme je dis un peu dans les légendes urbaines, que les avocats, on est à l'argent, qu'on... Fait que... On l'entend encore. Ou qu'à l'aide juridique, ben, je vous ai pris vous parce que j'avais pas les moyens de me payer un vrai avocat.
Oh.
Comme moi. Ben, je vous annonce que je suis une vraie avocate. Là. C'est la bonne nouvelle TVA du jour, là. Mais je suis une vraie avocate. Et c'est des fois, il y a aussi cette notion-là de si je paye...
Ben, je vais avoir un meilleur
service. Ou peu importe, ouais. Dans la vie, on a l'impression que, tu sais, si je vais au restaurant puis je paye mon assiette 150 $ que je vais mieux manger que si je la paye 5 $ Mais c'est un burger et des frites, c'est un burger et des frites, là. À 5 ou à 150, là. C'est à peu près la même chose, là. Fait que, il y a aussi cette notion-là de si je paye, j'ai un meilleur service aussi, ce qui n'est pas. Faut faire une corrélation directe. Fait que je pense que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, l'image un peu, des fois, que les gens ont un peu de la justice. Des fois, des émissions de télé aussi peuvent jouer sur l'impression que...
Puis souvent, ce qu'on voit à la TV, c'est pas ce qui se passe en vrai, là.
Non, des fois, surtout les séries américaines, oui, on est carrément ailleurs. La série québécoise, il y en a qui sont un peu plus représentatives. C'est quoi la pratique? Mais des fois, ça peut amener une image...
Erronée
de la profession, puis d'avoir l'impression que l'avocat n'est pas là pour la personne. Mais je veux dire, dans la pratique, je le vois. Des fois, des clients vont m'écrire, merci notre Brière, puis merci d'avoir été là, puis je suis contente de vous avoir eu. Puis je ne sais pas pour moi, mais je l'entends aussi pour mes mes autres collègues de l'aide juridique également, là, de savoir qu'on a été au bout du processus avec le client, qu'on l'a accompagné dans cette étape-là, qu'on était présent pour lui. Tu sais, on le voit, il y en a qui nous le nomment, là. Merci, qu'ils vont prendre le temps, on l'apprécie de nous envoyer un petit courriel pour nous remercier, là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la pratique, mais ça, faut démystifier un petit peu, puis enlever certains préjugés, on va dire négatifs, par rapport au juridique, que c'est quelque chose comme une tour d'ivoire là, qui n'est pas accessible. Ça peut être accessible, mais après, il faut aller chercher les bonnes ressources. Pour...
Super. Puis, dans le fond, quelle piste de solution que vous auriez à donner là, qui pourrait être empruntée par les juristes afin de faciliter l'accès à la justice?
Bien, je pense de s'impliquer. De s'impliquer, que ce soit avec Pro Bono, que ce soit avec Ducalois, Jury Pop. Il y a beaucoup d'endroits où on peut s'impliquer pour enseigner ou répandre la bonne nouvelle juridique, là, mais au moins de donner de l'information. Surtout aujourd'hui, il y a tellement de plateformes là, qui n'existaient pas il y a 20 ans en arrière. Là. Il y a moyen de rejoindre, je pense, la population facilement. Donc, que ce soit avec des capsules juridiques qui sont plus vulgarisées, que c'est plus facile à comprendre. Des petites séances, mais qui sont offertes auprès des organismes directement. Donc, d'aller... Il ne faut pas attendre... Le justiciable ne viendra pas à vous avant d'avoir un problème juridique.
Effectivement.
Donc, c'est au juriste d'aller vers le futur justiciable pour lui dire, ben voici ce qu'il en est. Fait que c'est de regarder, c'est quoi les organismes communautaires qui sont dans mon coin, puis dire, ben écoutez, là, c'est quoi votre clientèle?
C'est quoi votre
clientèle? Okay, c'est une clientèle plus jeune, de maman séparée. Ben écoutez, je pourrais venir puis donner un petit atelier là, sur... C'est quoi mes droits et mes obligations dans le cadre d'une séparation? C'est un groupe de femmes plus âgées, ben là, d'expliquer les testaments, les mandats en cas d'inaptitude. C'est pour que les gens savent un petit peu, comment ça fonctionne.
Un peu comme le mariage, ben les mandats d'inaptitude et tout, c'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment là, dans la vie de tous les jours.
Je pense que si les juristes ont le goût de s'impliquer, pas plus d'être une implication, là, je ne vois pas dans 15 heures par semaine, mais ne serait-ce que quelques heures dans l'année, au nombre de juristes qu'on est, il y a moyen
ça fait déjà une grosse différence.
Ça fait une bonne banque d'heures de formation pour la population.
Parce que on est vraiment chanceux dans le cadre de nos projets pro bono. On a des juristes là, vraiment dévoués à nos projets, de s'impliquer. Mais parfois, on peut souvent entendre le manque de temps de certains, certaines. Comme vous le mentionnez, ça prend pas nécessairement 15 heures pour s'impliquer. Ça peut apporter des changements importants, là. Là, c'est sûr que nous, on est étudiants, étudiantes pro bono du Canada. Quand on approche les juristes, c'est peut-être plus facile de faire directement le lien. Mais parfois, des organismes qui vont tenter d'approcher des juristes, le contact peut peut-être être différent aussi, que les juristes vont être un petit peu plus réticents. Mais pourtant, ça a l'air tellement de belles expériences enrichissantes. Puis... on a beau dire que les petits gestes font des grands changements, là, donc je pense qu'on considère ça vraiment important.
C'est ça. Vous n'avez pas besoin de mettre 15 heures par semaine, comme vous mentionnez. Une seule heure par semaine peut faire une différence chez quelqu'un.
Puis, si je donne un atelier, sur un domaine de droit que je connais, là, je pratique pas en droit des affaires.
Exact.
Si on me demandait de donner une formation en droit des affaires, là, je suis pas sûre qu'elle serait très, très bonne. Puis de deux, là, ça me demanderait beaucoup de temps parce que c'est pas mon domaine de pratique. Mais je veux dire... Dans mon domaine de pratique, j'ai pas besoin d'avoir une grande préparation pour enseigner. Puis, soit enseigner je parle pas d'enseignement forcément théorique là, comme en classe, mais d'expliquer en fait les ressources juridiques, puis c'est quoi nos droits et nos obligations, mais que ça soit à la population ou à des collègues en donnant des formations. Là. J'ai monté une formation avec deux de mes collègues de l'aide juridique sur le rôle du procureur à l'enfant, un petit guide pratique. C'est d'expliquer aussi à nos autres collègues plus jeunes, les nouveaux qui arrivent, donc comment ça fonctionne, puis de redonner également à ces jeunes-là sur les formations, sur les expériences qu'on a, donc à la population et également à nos collègues de bureau. C'est de dire que la porte est toujours ouverte. Si c'est une question, sois pas gêné, viens me voir. Mais je pense que en tant que on va dire juriste senior, ben j'aide les juristes juniors qui rentrent dans le bureau. Là.
Mais comme on parle depuis le début, la transmission de l'information est super importante. Comme vous dites là, c'est vraiment de redonner autant aux professionnels puis qu'eux, par la suite, vont être outillés pour justement les redonner à la communauté. Là. Donc, c'est vraiment l'essentiel.
Puis tu sais, pour ceux qui débutent, ça peut être aussi une façon là, de se faire connaître comme jeune avocat, d'aller chercher de la clientèle. Fait que, il peut y avoir aussi un retour de balancier également. Là. Peut-être pas forcément des fois dans l'immédiat, là, mais à long terme. Ah oui, c'est vrai, telle avocate est venue me donner une conférence. Là, j'ai une problématique, mais c'est on a déjà un nom sur un visage sur le nom. Et c'est le courant, mettons, avait bien passé. Mm-hmm. Bien, on va avoir un retour à ce moment-là. Puis les gens, c'est beaucoup du bouche à oreille. Là. Quand les gens se séparent, là, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux les spotettes qui existent de ce monde. Là, je me sépare. Connaissez-vous un avocat en droit de la famille, en droit du travail, en droit de ci, en droit de ça? Puis les gens vont référer l'avocat qu'ils ont eu.
Ou qui ont déjà eu.
Puis que ça a bien été. Puis c'est comme ça que, des fois, la roue va la tourner. Roue, c'est ça.
Mais dans le fond, la prochaine question, on y a un petit peu répondu, mais justement, on voulait savoir comment les étudiants, étudiantes en droit à titre de futurs juristes peuvent-ils, elles, s'y préparer ou y contribuer? Bien, comme vous dites, c'est vraiment justement que les seniors les prennent en charge, qu'eux s'impliquent aussi tout au long de leurs études et par la suite. Dans le fond, c'est un peu... Vous, comment vous voyez ça, en fait?
Bien, de s'impliquer, d'être ouvert, je veux dire, selon notre travail ou selon les organismes qu'on approche, ben de pas avoir peur de dire hey, « je suis étudiante en droit, si je peux aider ou mettre la main à la pâte d'une quelconque façon. » De ne pas avoir peur, comme je dis, d'aller vers les futurs justiciables ou le justiciable pour donner un coup de main, mais de prendre un petit peu de temps pour informer. Je pense que c'est vraiment ça, même en tant qu'étudiant. Et surtout maintenant, il y a tellement de ressources puis d'opportunités. Là. Il y en a encore plus qu'il y a 20 ans en arrière quand j'ai fait mon bac. Là. Et je pense qu'il y a moyen de s'impliquer à la hauteur du temps qu'on est capable de mettre aussi. Là. Je comprends que des fois, il y a le travail, il y a des étudiants qui ont des enfants. Tu sais, chacun a des réalités de vie différentes. Mais je pense qu'il y a moyen de redonner ou de s'impliquer
à la mesure, à la hauteur qu'on peut le faire, effectivement.
C'est ça, parce que, par exemple, nous, on a certains étudiants qui, des fois, ne savent pas notre implication auprès de Pro Bono. C'est du 3 à 5 heures par semaine, tout dépendamment de certains projets. Ça rentre quand même facilement là, dans un horaire d'étudiant, tout dépendamment de tous les autres facteurs qui peuvent entourer une personne. Mais il y a aussi le facteur que c'est bénévolement. Des fois, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre nécessairement de faire du bénévolat ou ces choses-là, mais ça rapporte pas juste monétairement, ça rapporte une expérience tellement enrichissante puis qui peut servir en pratique, justement, je pense.
Bien, ça met la théorie en pratique. Exact. Fait que déjà là, ça permet de voir est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça.
C'est vrai.
De mettre le bac un peu plus concret, les enseignements un peu plus concrets.
Parce que des fois, justement, on va faire un cours qu'on va triper, puis finalement, en pratique, ça ne fonctionnera pas, mais l'inverse est aussi vrai.
Effectivement. Ça amène aussi un petit goût de la réalité. C'est comme, un peu comme, mettons, ceux qui font le bac en enseignement, ils ont des stages durant leur bac. Mm-hmm. Au bac en droit, à ma connaissance, c'est pas la formule, mais ça te permet de mettre un petit peu, de voir qu'est-ce qu'il en est. Puis il y a des organismes, oui, il y a des choses qui peuvent être récurrentes, que c'est tant d'heures par semaine, mais il y en a qui vont avoir besoin, à un moment donné, précis dans l'année, point exact. Final. Fait, ça va être un 2-3 heures dans ton année, gros maximum, que tu peux donner comme étudiant, que ce soit de monter un petit dépliant ou préparer une petite conférence avec des petits collègues. Puis il y a moyen de faire ça à la bonne franquette, c'est comme de joindre l'utile à l'agréable. Puis ça te permet de rentrer en relation avec des organismes, avec des juristes, puis de te commencer aussi à te bâtir un petit peu réseau de contacts, surtout si dans ton rayon proche, il n'y a pas de juriste d'avocat parce que tu n'es pas dans une famille de juristes d'avocat, ben ça te permet de commencer à tisser des liens puis de développer certaines ressources. Là.
Oui, bien c'est ça, totalement. Ça permet tellement de créer des beaux contacts. C'est autant de la reconnaissance par les organismes aussi, puis leur clientèle, qu'on crée des changements dans la vie de certaines personnes, justement, par l'information qui est transmise. Comme qu'on mentionnait tantôt, qu'il y a des choix qui sont tellement importants à faire, puis de juste se sentir appuyé, soutenu, puis d'avoir de l'information... Ça peut changer beaucoup de choses aussi. Fait que vraiment une expérience enrichissante, selon moi.
Dans le fond, on vous remercie. On serait déjà rendu proche de la fin. En fait, là, avant de vous quitter, on aimerait un peu parler là, de pro bono. On veut vous dire que prochainement, on a une conférence sur l'accès à la justice, justement. Donc, si le podcast aujourd'hui vous a plu, on vous invite le 16 novembre à 18h30 à une de nos conférences. Dans le fond, on vous invite également à suivre nos réseaux sociaux. Je vais laisser Mélaëlle peut-être vous dire le nom de notre Facebook et tout pour que vous puissiez nous suivre et savoir les futurs événements également.
Oui, donc effectivement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous avez simplement qu'à indiquer EPBC U Laval. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Instagram, même Twitter. Puis comme ma collègue le mentionnait, nous avons une conférence le 16 novembre prochain portant sur la communauté LGBTQ+. Donc pour avoir... S'y connaître un petit peu plus puis avoir de l'information, c'est toujours important de s'informer, comme on l'a mentionné tout au long du podcast. Donc, on vous invite fortement à vous impliquer puis à nous suivre pour avoir les autres informations pertinentes quant à nos conférences puis nos événements. Donc, on vous remercie puis encore une fois, Maître Brière,
merci
de votre présence aujourd'hui.
Plaisir.
C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.
Écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendra toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h. Sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.